C'est une grande joie pour moi de vous retrouver en ce dimanche de Pentecôte. C'est une grande fête de l'Église. Et nous allons méditer ensemble aujourd'hui ce mystère qui est le don du Saint-Esprit. Selon le milieu d'Église auquel on appartient, eh bien, cette question du Saint-Esprit, ce qu'il est, ce qu'il fait, va trouver des réponses très différentes. Permettez-moi un peu de caricature. Alors, le catholique et l'orthodoxe, ils vont vous offrir, chacun dans une orientation théologique différente d'ailleurs, un cours de Trinité très pointu, aux limites de l'intelligibilité, quelquefois. Le protestant réformé, lui, va lever les yeux, les sourcils en signe d'embarras quand on lui parlera du Saint-Esprit. Le pentecôtiste, au contraire, parlera beaucoup pour raconter les actes de puissance du Saint-Esprit dans sa vie personnelle et dans son Église. Et quant au libriste, ah, ça c'est intéressant de savoir. Eh bien, je dirais que comme à son habitude, il cherchera une position équilibrée, bien construite bibliquement, mais peut-être au final un peu molle. Ce qui d'ailleurs est très embêtant, puisque l'esprit est le contraire de la mollesse. Alors, en ce jour de Pentecôte, je vous invite à commencer avec moi un petit parcours de méditation sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. J'essaierai, et je m'y engage d'ailleurs, d'éviter les caricatures que je viens d'évoquer. Elles sont injustes, partiellement. Et je crois que dans chaque tradition chrétienne, il y a des choses importantes à saisir, à partager sur le Saint-Esprit. Et pour nous faire entrer d'emblée dans le vif du sujet, j'aimerais évoquer deux épisodes de la vie de Pierre, le disciple de Jésus, très rapidement. Regardez-le bien. À cet instant, à la fin des évangiles, Pierre a froid, il se chauffe devant le tribunal, son maître vient d'être arrêté, Jésus est entendu par les juges, on lui demande s'il le connaît, et vous connaissez la suite. Pierre niera par trois fois connaître Jésus. Quelques semaines plus tard, dans le livre des Actes au chapitre 5, Pierre est à nouveau à Jérusalem, à nouveau près du tribunal. Pardon, il n'est plus près du tribunal, il est dans le tribunal religieux, il est convoqué. Sa prédication publique est jugée dangereuse, inacceptable. Et Pierre répond ceci: je ne peux taire ce que j'ai vu et entendu. Et quand on lui demande d'ailleurs de préciser ce qu'il a vu et entendu, il répond: celui que vous avez crucifié, celui qui était mort, est revenu à la vie. Que s'est-il passé chez Pierre entre ces deux rendez-vous au tribunal? Rien d'autre qu'une conversion, une expérience personnelle de rencontre avec le ressuscité. Pierre s'est réveillé, s'est éveillé. On ne peut pas comprendre Pentecôte sans revenir sans cesse à l'événement de Pâques. L'esprit n'a au fond rien d'autre à dire, rien d'autre à faire dire que ça. Jésus le Christ était mort et il est vivant. Je pense que l'évangile de Jean nous permet de poser quelques bases, quelques repères forts, très utiles pour approcher le mystère de l'Esprit-Saint. Et je vais être très rapide avant d'entrer dans le livre des Actes. Il le fait en trois étapes. D'abord, vous avez Jean-Baptiste qui prophétise. Celui qui vient après moi baptisera d'esprit et de feu. Puis, Jésus, dans une deuxième étape, va promettre à ses disciples la venue du Saint-Esprit, le fameux paraclète, le défenseur consolateur qui les accompagnera justement devant les tribunaux. Et enfin, à la fin de l'évangile de Jean, Jésus souffle sur eux et ils reçoivent l'Esprit. Et Jésus prévient aussi que, ailleurs, que cet esprit est insaisissable. Il est comme le vent. On ne peut que constater ses effets. Jamais on ne l'enferme dans une boîte, même si la boîte porte quelquefois un nom d'église. Hein. Ça arrive. Le Saint-Esprit est donc celui qui dit à notre esprit que celui qui n'est plus là est là, mystérieusement, réellement, autrement, en esprit. Et pour savoir si l'Esprit Saint est là, dans votre vie, puisque c'est la mode, j'ai mis au point un test. Et j'espère que ça va faire grand bruit sur Internet. Hein. Un test parfaitement fiable. Vous êtes prêts ? Quand l'esprit est présent, il va produire trois phénomènes, trois changements dans notre vie. Alors, on peut mettre une diapo. Premier changement, c'est un changement dans ma manière de recevoir et d'annoncer les Écritures bibliques, la parole de Dieu. Et le déploiement que nous a fait ce matin Michel et Roger montre toute la puissance de ce mouvement de transformation, recevoir et annoncer les Écritures bibliques. Un deuxième changement sera celui de ma relation avec Dieu. On va pouvoir expérimenter cette relation avec Dieu dans la prière, dans un dialogue de prière. Le troisième point, troisième révélateur du test, c'est ça, c'est un changement dans ma façon de vivre mes relations avec les autres, que ce soit au travail, en famille, dans l'église. Trois axes où l'esprit va agir. Comme il a soufflé sur Pierre, il vient souffler sur nous, opérant une sorte de transformation intérieure profonde. Alors aujourd'hui, je vous invite à examiner le premier révélateur du test, c'est notre rapport à la parole de Dieu. Où est-ce qu'on en est avec ça? Et le récit de la Pentecôte en acte 2, qui vient d'être lu, nous donne des clés très importantes pour comprendre ce qui se passe dans notre rapport avec la parole. La Pentecôte est un miracle de parole. Le Saint-Esprit vient, vous l'avez vu, sur chaque disciple, il n'y a pas une langue pour le groupe, hein. Il y a une langue pour chacun. Au début du récit, on ne sait pas trop ce qui y arrive. Luc a recours à des images, des comparaisons, il y a du bruit, il y a du vent violent, des langues de feu. Cette description n'est évidemment pas à comprendre sur un plan matériel, littéral, corporel. L'image des langues de feu annonce simplement et poétiquement le programme de la journée. Il est important de ne pas se tromper de miracle à Pentecôte. C'est vrai qu'on est tenté de focaliser sur ce phénomène des langues de feu. Ce serait une erreur. Le miracle, le grand miracle n'est pas là, il est après. Les disciples descendent dans les rues de Jérusalem et se mettent à annoncer les merveilles de Dieu, nous dit le texte. Chacun à sa façon, d'ailleurs. Et tous les étrangers qui sont là, venus des quatre coins de la Méditerranée, qui sont réunis pour une grande fête juive de Shavuot, la Pentecôte, pour célébrer le don de la loi à Moïse, vont entendre la bonne nouvelle de la résurrection dans leur langue maternelle, nous précise Luc. Pentecôte, c'est donc un miracle de communication, plus qu'une extase spirituelle réservée à un petit cercle d'élus. Il est bien difficile de savoir d'ailleurs exactement ce qui s'est passé. Quand on s'approche un peu de ce miracle de communication? Est-ce que c'est un miracle d'expression? C'est-à-dire, est-ce que les disciples se sont mis à parler le libyen, le crétois, le phrygien, sans le connaître? Ou est-ce un miracle d'audition? C'est-à-dire que les gens, les étrangers, auraient entendu le message dans leur langue maternelle, alors que les disciples, eux, se seraient contentés de proclamer l'évangile en galiléen, leur langue natale. Le texte n'est pas, ne nous permet pas de trancher avec certitude. Peu importe d'ailleurs, quoi qu'il en soit, ce qui est miraculeux, c'est que ce peuple disparate de culture, de couleur, de langues différentes, soit rejoint ce jour-là par la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Chacun dans sa langue maternelle, la langue de maman, c'est celle qui me permet de penser, d'organiser le monde autour de moi, ce monde qui m'entoure, qui est là, d'exprimer aussi la langue de maman, me permet d'exprimer mes émotions, mes sentiments. La langue de maman, c'est la langue qui ne trompe pas, qui rejoint, qui structure l'enfant, l'être profond. Il est là le grand miracle de Pentecôte. L'Esprit s'est mis à parler la langue des gens. Il dit à chacun, dans la langue de toutes les mamans du monde, que Christ est vainqueur de la mort. Et le résultat est spectaculaire. On ne l'a pas lu. Mais si vous poursuivez la lecture d'Acte 2, Pierre va prêcher. Ce jour-là, il y aura 3000 convertis. 3000 personnes qui ont ouvert leur cœur au message de la résurrection. L'Église du XXIe siècle doit retrouver cette aptitude à parler le langage de tous. Comment dire que le Christ est vivant dans le langage des banlieues, par exemple, à des populations immigrées qui n'ont pas bien accès au français, et quelquefois même, pour la deuxième génération, n'ont pas accès à leur propre langue maternelle. Comment communiquer l'évangile dans un langage accessible à des jeunes dont ni les parents, ni même les grands-parents n'ont jamais ouvert une Bible ou mis les pieds dans une église, quelle qu'elle soit? Et comment, c'est peut-être le plus délicat, comment communiquer cet évangile de la résurrection à l'Église elle-même? Quels mots auront la puissance de réveiller l'Église, de la mettre en marche vers sa vocation, de restaurer sa joie, de restaurer sa paix, sa confiance en Dieu et surtout son amour pour tous les hommes? Sœurs et frères, rien ne sera possible sans ce baptême d'esprit et de feu que nous recevons des mains mêmes du Christ. L'Église doit abandonner le maniement de la langue de bois, de la langue de vipère, de toutes les langues que vous voulez. Elle doit cesser de parler de l'Évangile dans un langage d'expert, avec des mots incompréhensibles, pour réapprendre à parler la langue de feu. La langue de feu, je ne sais pas bien ce que c'est, mais j'imagine qu'elle peut être une langue qui nous rend poètes, qui nous rend capables de trouver des mots justes pour traduire des réalités humaines complexes, pour dire la profondeur d'un sentiment, la puissance d'une joie, le drame d'une souffrance. La langue de feu, eh bien, elle saura dire l'originalité d'une idée, la beauté d'une action, le caractère infiniment gracieux de la vie. La langue de feu sait le faire. Elle saura dire, dans la langue de chacun, les merveilles de Dieu. Elles sont incalculables. L'Esprit nous pousse donc à prendre des risques, frères et sœurs. Le risque de la rencontre avec ceux qui ne nous ressemblent pas, à fuir l'esprit de ghettoisation de l'Église, pour aller vers ceux qui ne parlent pas notre langue, qui ne connaissent rien au nom de Jésus-Christ. L'Esprit nous pousse aussi à prendre le risque d'une lecture de la Bible renouvelée. Ce n'est pas le plus simple. Une lecture libérée des réflexes sécuritaires. Une lecture affranchie de ce besoin maladif de toujours tout remettre en ordre pour que rien ne dépasse, pour que tout soit conforme. Eh bien, Pentecôte, c'est un immense et joyeux dérangement, pour rester poli. Un bouleversement des codes sociaux, des codes religieux, des codes humains. Pentecôte, c'est la vie dans tous ses états qui jaillit de la prédication de la parole. Et un théologien orthodoxe a écrit cette chose que je trouve merveilleusement belle, que l'Esprit se dissimule dans le Fils comme la voix s'efface devant la parole, tout en la rendant audible. Alors que oui, que chacun de nous, en ce jour de Pentecôte, ouvre son cœur à la voix de l'Esprit qui nous donne le Fils. Elle nous fait, cette voix, entendre au plus intime de nous-mêmes la parole du Christ ressuscité. Et si ce miracle a lieu ce matin pour nous, et j'ai prié pour ça, avant de commencer cette prédication, eh bien je crains que nous ayons de grandes difficultés à contenir les projets, les élans, les rencontres, la vie sous toutes ces coutures qui va jaillir, que l'Esprit inspirera à son Église, à notre Église. Rien ne pourra jamais plus éteindre ce feu que la parole du Christ aura allumé dans nos cœurs. Et comme Pierre, l'apôtre, relevé, libéré de lui-même et de sa culpabilité, regardant ses juges dans les yeux, eh bien, Pentecôte aujourd'hui, de faire de nous des femmes et des hommes de la parole. Que cette parole redevienne donc notre compagne si nous l'avons délaissée, et qu'elle soit notre trésor si nous l'avons enfermé à double tour quelque part, qu'elle devienne notre message, qu'elle devienne notre vie. Amen.